Ja, ich bin Hartmut Rosa, ich bin Soziologe und Philosoph und lehre an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und auch am Max-Weber-Kolleg in Erfurt und arbeite an der Frage, wieso uns in dieser Gesellschaft die Zeit ausgeht, wieso wir immer beschleunigt uns fühlen und wie wir ein anderes, ein resonantes Weltverhältnis gewinnen können.
Bonjour, donc moi je m'appelle Nathanaël Balénance, je suis enseignant-chercheur à Angers, à l'Université catholique de l'Ouest, et puis je travaille en fait au croisement de la science politique, des sciences de l'environnement et puis des sciences de l'éducation. Je bossais sur l'anthropocène, c'est un mot scientifique qui vient de la géologie, ça veut dire le système Terre entre dans une nouvelle époque géologique qui est caractérisée par une modification durable des conditions d'habitabilité de la Terre. C'est quelque chose, quand on plonge dans cette réalité-là, puis dans toute la réalité, j'ai envie de dire biogéophysique, c'est glauque, c'est plombant, enfin c'est flippant, enfin voilà. J'ai appris en anthropocène avec toutes ses facettes, à savoir... Le thermocène, c'est la machine à vapeur responsable des dégâts systémiques et globaux. C'est l'androcène, il y a quelque chose de très viriliste et masculin dans l'exercice d'une domination, etc. C'est le plantationocène, c'est-à-dire à un moment donné, le monde dans lequel on est aujourd'hui, il est aussi le fruit, la résultante de l'esclavagisme. C'est le capitalocène, bien sûr, en disant, mais à un moment donné, ce sont quelques puissants qui détiennent le capital et qui sont responsables des grandes dérégulations, etc., etc. Et donc, en appréhendant l'anthropocène, intégrant toutes ces facettes avec les scènes qui sont positionnées ou qui se sont positionnées comme des scènes alternatives, en fait, on appréhende de cette façon l'anthropocène comme un fait social total. On le politise. Fait social total, c'est l'expression de Marcel Mauss, et qui lui donne vraiment beaucoup de puissance, de tonus, de vigueur, mais qui signifie de fait l'ampleur de la violence dont chacun de nous, et tout particulièrement les plus vulnérables, sont les victimes, en fait. Et l'autre nom de l'anthropocène, c'est la grande accélération. Et c'est les scientifiques eux-mêmes qui en parlent de cette façon, en regardant en fait les courbes, différentes courbes de l'envoi de CO2 bien connu, puis il y a tout un tas de courbes comme ça, en voyant combien ça s'accélère à partir du milieu du 20e siècle. Et puis, par ailleurs, j'ai lu Rosa, et puis donc j'avais lu son bouquin Accélération, où en fait Rosa, dans ce livre-là, il nous dit en fait le plus grand problème des sociétés contemporaines, c'est qu'on n'arrête pas d'accélérer, quoi. Il y a quelque chose qui ne cesse de s'emballer, en fait, au niveau de l'accélération. Et puis après, il a écrit un autre ouvrage qui s'appelle Résonance. Et donc la résonance, pour lui, ça veut dire entrer dans un nouveau rapport au monde qui est caractérisé par l'écoute et la réponse. En gros, ça veut dire, mais d'abord, commençons par appuyer sur pause, mais pas d'abord pour ralentir, d'abord pour écouter ce qui se passe et puis répondre. Et puis voilà, entrer comme ça dans un dialogue, alors un dialogue qui est avec le monde, avec la nature, avec les autres. Et donc, en gros, il dit, mais alors si l'accélération est le problème, peut-être la résonance est la solution. Et donc, moi, j'ai pris ça, je l'ai pris au mot, quoi. Je me suis dit, ben oui, l'accélération est le problème, la grande accélération est le problème. Et là, je reboucle avec moi mes préoccupations. Non, mais en fait, si l'anthropocène est un problème, donc est le problème du temps présent, puisque ça compromet la façon dont on peut vivre ensemble, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bon à aller chercher du côté de la résonance et de cette nouvelle façon avec laquelle il nous propose d'entrer en relation pour changer le monde, quoi, d'une certaine façon. Voir Hartmut Rosa, puis en entrant en dialogue avec lui, j'avais mes questions principales, c'était de dire, mais comment est-ce qu'on peut changer le monde fondamentalement et de façon radicale du latin radix, qui veut dire prendre, en prenant les choses à la racine, quoi. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant avec Rosa, c'est qu'il nous dit, à travers son livre Résonance, et puis ce concept-là, qu'il est possible de changer le monde par-delà le conflit et la violence. Alors, Rosa, si tu peux savoir, c'est un chercheur allemand, il s'inscrit dans un sillon théorique qui est celui de la théorie critique de l'école de Francfort. Et Rosa, il nous dit, mais en fait, c'est par-delà la lutte et le conflit que l'avènement d'un autre monde est possible. Et donc, moi, je trouvais ça intéressant, en fait, en allant le voir, parce que moi, je suis enseignant-chercheur, et comme enseignant-chercheur, ben, on a un fond, j'ai envie de dire, d'éducateur. Et comme éducateur, j'ai envie à la fois que par mon travail avec les autres, quoi, avec les collègues, on parvienne à changer le monde. Et en même temps, je veux tout faire pour éviter la violence, pour éviter le conflit. J'ai même presque envie de dire, la visée ultime de mon travail d'enseignant-chercheur, d'éducateur, c'est d'éradiquer la violence. C'est la visée ultime de l'éducation, de faire front face à la violence. Et Rosa, il a une visée très ambitieuse, en fait, par rapport aux ruptures radicales qui peut opérer dans le monde, puisque son ouvrage Résonance, il termine vraiment avec la finalité d'avènement de sociétés post-capitalistes, post-prométhéennes. Voilà. Et alors, dans ce dialogue avec lui, j'avais surtout besoin d'aller le chercher pour dire, mais honnêtement, est-ce que c'est possible, par-delà la lutte et le conflit, de voir l'avènement d'un autre monde? C'est très séduisant pour un éducateur, c'est super, d'y croire, ça me fait du bien, mais en fait, j'ai du mal à y croire jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait quand on a affaire à des personnes qui ne veulent pas entendre? Qu'est-ce qu'on a à faire quand on a des personnes, des puissants, avec du sang sur les mains et qui continuent d'asseoir leur domination, leur puissance, etc. Qu'est-ce qu'on a à faire quand aujourd'hui, par exemple, on a un chef de l'État, Emmanuel Macron, qui joue avec les données scientifiques sur la dimension bioclimatique, qui joue avec les citoyens, etc. Et en fait, si on suit Rosa, on devrait presque, je caricature un peu, mais dire, ah ben, je vais t'écouter, puis dans l'espoir que tu m'écoutes, et puis on va pouvoir entamer un dialogue comme ça, etc. Ben oui, mais quand de toute évidence, c'est pas organisé autour de l'écoute, on est quand même content que d'autres emploient des moyens peut-être plus musclés. C'est les tensions dans lesquelles on peut être, enfin en tout cas moi, les tensions dans lesquelles j'étais, enfin, et dans lesquelles je suis encore aujourd'hui, avec à la fois, d'abord et avant tout, fondamentalement, une immense reconnaissance pour l'œuvre de Rosa, extrêmement stimulante intellectuellement, et moi qui me nourrit et qui me stimule. Et parce qu'il positionne une visée aussi ambitieuse que celle d'une transformation du monde, et pour faire émerger un monde commun, ben, je veux dire, c'est peut-être l'auteur avec lequel je suis le plus exigeant, d'une certaine façon, parce que j'ai envie, j'ai besoin que ça marche, entre guillemets. Donc aujourd'hui, je continue d'être dans cette tension, j'ai envie de dire, dans cette tension éducative entre, oui, je veux croire et en tout cas, je veux refuser d'entrer dans la violence, ça c'est sûr, c'est en tout cas une posture de ma part qui a toutes ses limites, mais qui est la mienne. Et puis, ben, en même temps, je veux ne pas être naïf des rapports de force et je sais bien que les grands changements radicaux dans l'histoire de nos sociétés, ben, ça s'est passé aussi grâce à la lutte, grâce au combat, grâce à l'opposition, grâce à la force, etc. Pour moi, un truc vraiment important, ça a été dans une première partie un peu de mon travail, c'était de travailler tous ces articles biogéophysiques, etc., et d'essayer de démêler le vrai du fake, en fait, voilà, pour comprendre, pour faire un état des lieux du système Terre, là, en 2020, etc. Et puis après avoir passé mes des années à travailler là-dessus, j'ai eu comme la prise de conscience, ça me paraît complètement con, mais c'est comme ça que ça s'est fait pour moi, de me dire, mais bon sang, la vie sociale et politique, elle n'est pas organisée à partir de ce qu'on sait, elle est organisée à partir de ce qu'on raconte. Et ce qu'on raconte, parfois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on sait, mais c'est à partir de là qu'on organise la vie sociale et politique. Donc du coup, je me suis coltiné d'une certaine façon les récits, en fait, tout ce qu'on allait raconter. Du coup, je proposais une forme de typologie, en fait, des récits, des petits récits qui sont nés dans le sillon de ce grand récit de la modernité, hein, demain sera meilleur qu'aujourd'hui, aujourd'hui est meilleur qu'hier, etc. Et à partir de là, bah, du coup, j'ai essayé d'identifier quels sont les récits. Et donc, il y en a un premier, voilà, c'est simple. C'est le récit mensonger. Bon, voilà, c'est Donald Trump. Voilà, c'est le grand vainqueur, en fait, le récit mensonger de ces derniers temps, qui dit, mais en fait, il y a pas de dérèglement climatique d'origine humaine, ou on n'est pas sûr, ou pas tant que ça, ou je sais pas quoi.
It'll start getting cooler. You just watch. I don't think science knows, actually.
Après, il y a un deuxième récit qui dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une petite dictature, une dictature verte à la chinoise ou quelque chose comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faut pas abdiquer de nos libertés publiques au bénéfice de quelques-uns supposément éclairés qui vont prendre en charge le destin de l'humanité, de l'aventure humaine? Et moi, je pense qu'il n'y a absolument rien de bon à prendre de ce côté-là, parce qu'une dictature, elle ne peut être centrée que sur elle-même, voilà, et sur l'exercice de sa domination sur les peuples. Et dès qu'elle n'est pas en train de dominer les autres, bah, elle gicle, en fait. Voilà. Donc elle ne peut pas être centrée sur les enjeux du long terme. Après, il y a un troisième récit, c'est un récit californien. C'est bon, la technique va nous sortir de l'ornière dans laquelle elle nous a mise grâce à la néolibéralisation du monde et de la nature. Bon, là, honnêtement, y a rien de bon à prendre aussi, parce que ça nous éloigne de la politique, en fait, ce fantasme autour de la technique qui va nous permettre d'y arriver, etc. Puis un autre récit, c'est un récit un peu bisounours, mais pas que, qui va dire, mais en fait, il faut qu'on change nos conduites de consommation, nos pratiques de consommation, et puis si on le fait, on va y arriver. À la fois, c'est fondamental, et puis en même temps, c'est vraiment pas suffisant, quoi. Il y a un récit que j'ai juste esquissé, c'est le récit pervers, c'est le récit de nos gouvernements, en fait, aujourd'hui, hein, qui disent quelque chose et font quelque chose qui est à 180 degrés. Donc là, de fait, aujourd'hui, notre gouvernement, il excelle dans le domaine, dans ce récit pervers. Et puis, il y a heureusement un sixième récit alternatif qui va politiser les questions environnementales, qui va les prendre à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qui va les fonder dans la Constitution, dans la législation, gros, qui va faire bosser le législateur, et puis qui est porté aussi par des auteurs comme Rosa, avec la résonance, avec une visée comme ça d'une vie bonne qui est possible et qui est aussi qui peut aussi s'inscrire dans quelque chose de durable. Voilà, d'hospitalier, inscrit dans le réel. Alors c'est pas Rosa seule, hein, qui matérialise ce récit-là, mais il est inscrit dans ce récit-là avec d'autres qui peuvent là peut-être être plus challengeants à l'égard des formes institutionnalisées, comme quelqu'un comme Andreas Malm par exemple, hein, qui est un peu plus strong, plus tonique, qui va vraiment rentrer dans le conflit et signifier combien l'entrée dans le conflit est nécessaire si on veut voir advenir une autre réalité sociale. Tous les gestes individuels qui peuvent être faits, ils sont bons dans la mesure où ils participent d'un ensemble, d'un mouvement en fait sociétal qui est en train d'advenir, et ils mettent du poids en fait dans la balance, et du poids qui peut faire que des bascules peuvent advenir. Et des bascules, elles adviennent pas quand la moitié de la population est engagée. C'est des minorités qui sont agissantes et qui ensuite peuvent participer de transformations profondes, radicales, etc. Donc ça, pour moi, c'est important. C'est important d'avoir l'esprit aussi pour ne pas perdre espoir en fait d'une certaine façon. Et puis alors après, pour moi, le truc qui est fondamental, c'est que il faut que ça se soit dans un cadre législatif, et il faut ne pas laisser la possibilité aux uns et aux autres d'être plus ou moins sobres, etc., machin, et donc on aurait comme ça des riches qui seraient sobres et qui auraient une consommation voilà, équivalente à 10 fois celle de pauvres sobres qui, eux, pourraient à peine vivre, etc. C'est complètement malsain, en fait. Il faut qu'on arrive à repenser et reconceptualiser l'expérience démocratique, pas à partir de la liberté. Jusqu'à présent, c'est à partir de la liberté, en fait, qu'on a pensé une démocratie. C'est quoi? Ben, en fait, c'est je fais ce que je veux, quand je veux. Bon, on n'a pas le droit de commettre un meurtre. Enfin, il y a 2-3 trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Il faut payer ses impôts. Mais enfin, vous voyez bien les stratégies de défiscalisation qui existent. Enfin, bon, voilà, la liberté. Et en fait, il faut qu'on arrive à positionner les choses d'abord et avant tout autour de la limite. Mais une limite qui soit pas le fait d'un autocrate qu'aurait défini comme ça par lui-même de contraindre la population, mais une limite qui soit démocratiquement fondée, mais qui soit rude, enfin, c'est-à-dire à un moment donné qui nous altère et qui passe par des quotas de consommation individuelle, etc. C'est-à-dire où à un moment donné, la limite, Le modèle théorique des limites du système Terre, des limites planétaires, avec les 9 limites qui ont été positionnées par Rockström, ensuite Stephen, et puis ensuite tout un tas de personnes y ont travaillé, c'est un cadre théorique qui fait l'unanimité hein, dans les communautés scientifiques, et à partir duquel il faut qu'on pense et qu'on fonde l'expérience démocratique. Voilà, et donc ça, pour moi, c'est vraiment essentiel que ce soit dans du dur, voilà, dans un arsenal législatif.